êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel. Lionel de Lorlière vous présente La Voix des Notaires. C'est le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Gappet. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur.
Maître, j'ai une petite question à vous poser. Je suis propriétaire d'un petit logement et je voudrais le louer. Et j'hésite à faire moi-même un bail ou un contrat de location vis-à-vis de mon futur locataire. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, d'abord, si vous posez la question à un notaire, il vous dira forcément que c'est mieux de faire un acte de notaire.
Bon, mais c'est comme ça que je vous pose la question.
Bon, et bien sûr. Alors, évidemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de baux qui se font sans nous, sans les notaires. Et c'est vrai qu'on trouve facilement sur Internet ou dans les librairies des contrats de baux tout faits. Ceci dit, je crois qu'on ne dira jamais assez... l'utilité et l'intérêt qu'il y a à demander conseil à son notaire pour établir un contrat de bail. Là, je suis dans les baux d'habitation, et il faut savoir que les baux d'habitation obéissent à toute une série de règles et de réglementations très précises, et que d'une part, on ne peut pas faire n'importe quoi, et d'autre part, je vais vous exposer l'utilité très pratique qu'il y a à faire appel à un professionnel. Donc un notaire pour établir le contrat de bail.
Très bien.
Voilà. Alors, d'abord, je ne veux pas faire un cours de droit, mais je crois qu'il faut quand même spécifier, que je viens de le dire tout à l'instant, que le contrat de bail d'habitation est un contrat très encadré. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'encadrement des loyers qui résulte d'une loi très récente, parce que ça, c'est un peu plus compliqué, et puis ça ne s'adresse pas tellement dans notre secteur. Alors, le contrat de bail, d'abord, pourquoi serait-il utile de le faire par un notaire ? Tout simplement parce que il y a toute une série de précautions à prendre. La première, c'est que vous ne pouvez plus consentir un bail sans avoir fait toute une série de diagnostics.
Diagnostics immobiliers. Oui, même pour une location.
Absolument. Oui. Donc, les diagnostics d'amiante, c'est obligatoire. Le diagnostic ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique qui vous donne... Le classement de l'immeuble à la fois pour les consommations d'énergie et pour les émissions de gaz à effet de serre, donc il doit obligatoirement être annexé à l'acte de bail. Et puis vous en avez d'autres, si vous voulez. Il faut faire intervenir préalablement à votre bail d'abord un professionnel des diagnostics pour qu'il vous fasse toute la série des diagnostics. Ça, c'est la première chose. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus
parce que moi je suis pas le diagnostiqueur. Je crois qu'il y en a
sept non, mais je veux dire que il faut les faire, voilà.
Oui, d'accord. Bon,
ceci dit, sur le contrat lui-même, donc évidemment, c'est vrai que vous trouvez toujours des clauses toutes faites très facilement, mais il y a quelquefois des petites adaptations à faire, et donc le professionnel, en l'occurrence le notaire, est évidemment bien placé pour vous donner les conseils. Il faut savoir qu'un bail d'habitation, d'abord, il est conclu obligatoirement pour 3 ans, mais 3 ans d'engagement de la part du propriétaire, puisque lui, le propriétaire, doit louer pour 3 ans et ne peut donner congé que si 6 mois avant la fin des 3 ans au moins, il a donné congé pour 2 raisons, soit pour vendre, soit pour habiter lui-même ou un de ses descendants.
D'accord. Au bout de 3 ans, c'est ça. C'est
non, mais je veux dire que le propriétaire doit donner la cause.
La cause du
congé. Soit pour vendre, soit pour habiter.
D'accord.
Et le contrat est conclu au minimum pour 3 ans de la part du propriétaire. Et puis après, il y a un renouvellement automatique. Évidemment, on n'a pas besoin de revenir faire un bail au bout de 3 ans, puisque ça se renouvelle tout seul. Par période de 3 ans. En revanche, le locataire, lui, il peut donner congé à tout moment. Pourvu qu'il donne un préavis, et que ce préavis est en théorie de 3 mois, qui peut être réduit à 1 mois pour différentes raisons, changement de situation professionnelle, handicap, situation médicale, etc. Bon, mais sinon, le délai normal est de 3 mois. Voilà. Donc, Il est très très fréquent que dans les baux d'habitation, les propriétaires nous demandent des clauses particulières. Et donc, comme on ne peut pas mettre n'importe quoi, bien évidemment, il faut demander conseil à son notaire. Voilà. Et puis, je dirais en plus que l'intérêt de faire un bail notarié, c'est que vous avez un titre exécutoire. Ça veut dire que vous avez un titre qui vous permet d'aller directement en justice si jamais il y a un problème. Mmh. Alors évidemment, le problème, Dieu merci, n'arrive pas forcément à tous les coups, hein, mais c'est quand même une sécurité.
Oui, ça donne une sécurité.
Ah bien évidemment. Hein, et ça, on s'en rend compte toujours quand le problème arrive.
Très bien.
Ensuite, évidemment, on peut se dire, eh bien, écoutez, il y a un problème parce que moi, si je le fais moi-même, bah, évidemment, ça va pas coûter grand-chose. Hein. Tandis que, évidemment, si c'est fait par le notaire, bah, ça va être soumis au tarif du notaire.
D'accord. Bon,
oui, exact. Ceci dit, les enjeux sont quand même beaucoup plus importants. Et ensuite, je crois qu'il faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter à cela. C'est vrai que les tarifs de notaire est extrêmement réglementé. On a eu l'occasion d'en parler dans des précédentes émissions.
C'est vrai, ouais, hein,
on va revenir dessus aujourd'hui. Bon, ben, vous demandez à votre notaire combien ça coûte. Mais encore une fois, il faut pas s'arrêter sur le prix du bail pour ne pas le faire par le notaire.
Voilà. Très bien.
Après, j'ajouterais que c'est pas parce que le notaire a fait le bail que vous n'allez pas pouvoir gérer votre bail vous-même. Mmh. Hein, nous, on n'est pas forcément amenés, à la suite des baux que nous rédigeons, à faire la gestion. Hein, vous pouvez tout à fait garder la gestion, mais ça vous empêche pas de faire le bail.
Très bien. Bon. Merci de ces précisions. Nous allons avoir notre petite pause musicale et nous reprenons tout de suite après sur ces beaux, j'allais dire, un peu personnels. Que vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et j'ai aujourd'hui Maître Gappé qui nous a déjà exposé les problèmes des baux personnels pour les logements.
Les baux d'habitation.
Les baux. Tout à fait.
Oui, donc la réglementation sur les baux d'habitation est quelque chose de très encadré.
Oui.
C'est vrai que le propriétaire s'engage pour une durée déterminée, donc en l'occurrence au moins 3 mois, mmh. et c'est vrai que le locataire doit donner son préavis s'il part. Alors lui, évidemment, s'il y a le préavis, mmh. il n'a pas de justificatif à donner.
Hein, voilà, voilà, exactement. Toutes les contraintes sont pour le propriétaire.
Beaucoup. Beaucoup. Alors, l'organisation du bail, c'est vrai, il est d'usage de verser ce qu'on appelle une caution, mmh. hein, qui sert de garantie pour le maintien en bon état du bien, hein, et cette caution maintenant ne peut pas dépasser 1 mois de loyer, alors que c'est vrai que précédemment c'était 2 mois. Donc vous pouvez pas avoir une caution de plus de 1 mois de loyer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut savoir que à partir du moment où vous avez régularisé le bail, donc le propriétaire, c'est une évidence, il est propriétaire, mais c'est pas lui qui habite le logement. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a, une vous n'avez pas le droit de rentrer comme ça chez votre locataire, vous n'avez pas le droit de garder les clés, c'est chez lui, c'est pas chez vous, hein, mmh. sinon il y a une violation de domicile, hein.
Oui, oui.
Ça il faut faire attention. Et ensuite je dirais que le garantie donc qui a été versé au moment de la signature du bail normalement doit être restitué au minimum dans les 2 mois de l'état des lieux de sortie. et que le propriétaire, si jamais il y a des dégâts constatés donc par la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, eh bien, il peut éventuellement faire des retenues sur ce dépôt de garantie. Alors, ce problème-là, ça génère souvent plutôt des problèmes légèrement conflictuels, parce que vous comprenez bien que à partir du moment où vous louez un bien, il va être utilisé. Donc, si le bien est utilisé, donc ben il va s'user entre guillemets. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui est l'usure? Qu'est-ce qui est les mauvais entretiens? Donc, c'est vrai que c'est quelquefois assez difficile à discerner. Et il ne faut pas oublier que lorsque des propriétaires refusent de rendre la caution au locataire, ça peut aller jusqu'au tribunal de proximité. Hein,
Parce qu'il faut le justifier, je pense, les dégâts éventuels ou... le propriétaire peut pas garder la caution comme ça.
Bien sûr. Voilà. Et bon, ça génère quelquefois des situations qui sont pas faciles.
Et si on constate que les dégâts sont encore plus importants.
Dans ce cas-là, si vraiment vous avez quelque chose de très important.
Qui dépasse un mois de loyer.
C'est vrai que vous pouvez éventuellement faire un constat par l'huissier. Mais vous pouvez pas faire justice vous-même. Donc après, c'est le tribunal qui décidera éventuellement il y a lieu à versement de dommages et intérêts. Bon, c'est vrai que dans la plupart des cas, quand il y a un conflit entre le sortant et le propriétaire, il a évidemment intérêt à tourner la page. Et à pas s'embarquer dans des procédures qui sont quand même assez coûteuses.
Oui, voilà. C'est ça. C'est
assez lourd. Donc faut que ça en vaille le coup. Hein, oui. Je vous conseillerais pas forcément de, même si vous avez raison, de poursuivre.
D'accord.
Voilà, c'est une question de bon sens.
Voilà.
Voilà. Donc, je disais que sur les baux d'habitation, donc ce dépôt de garantie donc doit être restitué. Et puis il y a toujours un petit peu des questions quelquefois délicates, à savoir. Que un, le propriétaire doit tout ce qui est gros travaux, s'il y a des problèmes de murs, de sol, de toiture, de chauffage, de radiateur, tout ça c'est le propriétaire. Hein, mais le locataire doit et a l'obligation évidemment de prévenir le propriétaire des dommages, des désagréments qui peuvent survenir. Parce que si vous avez une fuite dans le toit et que le locataire ne prévient pas juste au moment où vraiment ça coule et puis et que ça a beaucoup de dégâts, évidemment il est quand même responsable de ne pas avoir prévenu à temps.
Voilà.
Donc vous voyez, tout ça c'est assez compliqué.
Oui, c'est ça, c'est donc à préciser.
Et donc raison de plus d'avoir vraiment un bail en bonne et due forme, bien fait, pour éventuellement pouvoir se défendre en cas de difficulté. Voilà. J'aborderai très 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 brièvement la question des congés. Donc c'est vrai que quand le locataire donne congé, en général on ne refuse pas le congé du locataire, pourvu qu'il ait donné son préavis avec les deux, un ou trois mois comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais lorsque le propriétaire donne le congé, évidemment il doit justifier les deux causes, donc soit la vente, soit pour habiter lui-même. Donc vous comprendrez aisément que il faut pas non plus que ça soit la porte ouverte à des abus, hein. Et puis il faut savoir également que on ne met pas deux locataires comme ça. C'est pas parce que vous lui avez donné congé que le jour où le congé arrive à échéance que vous devez le faire partir, hein, parce qu'après il faut un jugement d'expulsion. Ça se fait pas comme ça.
Merci maître de toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de Gras du Grand Ciel et la réalisation était de Claude Casal.